Alors, je vais essayer de rentrer dans le sujet, donc en essayant encore une fois de ne pas mettre en place trop de redites. Donc, le maître de la psychanalyse, Freud, fin du 19e siècle, on parle en 1896 donc de psychoanalyse. Depuis, effectivement, vous le savez, on a raccourci un petit peu l'expression, il s'agit donc de psychanalyse. Qu'est-ce que la psychanalyse? Un travail donc sur l'inconscient. Et on va dire surtout que la psychanalyse traite du comment et non pas du pourquoi. Pour ça que je suis souvent très en colère lorsque j'entends des horreurs véhiculées quant à la psychanalyse, puisque le pourquoi peut être quelque part accusateur, alors que le comment, jamais. Vous dites déjà à quelqu'un, pourquoi m'as-tu fait ça? Bon, c'est très agressif, c'est très projectif, alors que si vous dites à la même personne, comment as-tu fait pour me faire ça? Il y a déjà un bémol. Donc la psychanalyse, c'est cela. Je ne suis donc pas conférencière, je me répète, et c'est vrai que pour moi, le concept d'atelier-conférence est important dans le sens de partage. Alors comme nous avons la chance d'avoir un micro-baladeur, dès que vous avez envie d'intervenir, si vous avez besoin de poser des questions, de quelque ordre que ce soit, je préfère que l'on travaille comme ça. Je trouve que c'est plus dynamique et j'ai l'impression qu'on avance aussi davantage. Et puis là aussi, c'est une rencontre qui va encore une fois dans le sens donc de tout ce que nous mettons en place, donc psychanalyse et moi-même. Cette revue, encore une fois, a pour sens de désacraliser une discipline qui demeure quand même assez méconnue, même si nous bénéficions maintenant donc de certaines professions telles qu'effectivement la médecine, l'enseignement, etc., qui nous permettent d'œuvrer donc dans un sens extrêmement positif. Alors la psychanalyse remonte effectivement à une centaine d'années et Freud s'est rendu compte que l'être humain souvent avait des conduites qui étaient tout à fait antinomiques par rapport à ce qu'il envisageait. Ainsi, on peut très avoir envie de passer son permis de conduire et puis ne jamais, jamais obtenir ce permis de conduire. Ce qui veut donc dire qu'il y a une vie qui est tout à fait indépendante donc d'une volonté consciente. Pourquoi? Parce qu'il y a donc effectivement une énergie, là on entre dans le domaine de l'abstraction, qui est une énergie qui est à la fois très positive puisqu'elle nous permet d'avancer, mais du fait d'une lutte liée à une subdivision de l'appareil psychique qui va aussi nous jouer des tours, ce qu'on pourrait quelque part assimiler à l'échec. Ainsi, lorsque l'enfant vient au monde, il découvre, malgré le traumatisme de la naissance, état pendant lequel il s'est vécu tout puissant, seul maître au monde, eh bien, il découvre malgré tout la pulsion de succion qui lui permet de rétablir un schéma de bien-être, un état de contenant-contenu, de plénitude rencontré donc pendant la période intra-utérine. Cette pulsion, qui est une pulsion spontanée, va être effectivement recherchée, d'autant qu'elle s'étaye sur une fonction d'autoconservation qui est l'alimentation. Et cela, bien sûr, toute l'existence. Très vite, par contre, va s'opposer à ce que Freud a appelé l'instance ça, un juge qu'il a nommé sur moi. C'est-à-dire que le ça étant complètement débridé, donc dans ses intentions de plaisir, eh bien va systématiquement trouver son maître, à tort ou à raison, mais donc un arbitre. C'est aussi d'ailleurs la mise en place de la culpabilité, pour d'autres raisons a priori d'ailleurs que nous aborderons tout à l'heure. Ainsi se crée le complexe, c'est-à-dire que cette espèce de lutte permanente entre le ça et le surmoi génère donc ce qu'on appelle un complexe, donc vulgairement, et qui entraîne entre autres des somatisations. Alors, il faut savoir qu'en analyse, le terme somatisation est un terme qui est quand même très généraliste, puisqu'il peut englober donc toutes les mises en danger, quelles qu'elles soient, de quel type que ce soit. Avant, peut-être que vous posiez des questions si vous en avez envie, et très rapidement, il faut savoir qu'il y a ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la mise en place des fantasmes. Ainsi, je vous disais tout à l'heure que pendant la période intra-utérine, l'inconscient vit un état de toute-puissance. Cet état de toute-puissance va être rompu, va être quelque part d'ailleurs perdu lorsque la naissance intervient. Il y a un processus schizoïde, c'est-à-dire un processus de séparation qui est quand même assez brutal pour l'inconscient. Et l'enfant, quelque part, pour survivre à un état qu'on pourrait approprier à de la décompensation, eh bien, va élaborer, va intemporaliser d'ailleurs un monde tout à fait personnel. Il va donc, dans ces conditions, découvrir sa mère, non pas sa mère en tant que sujet, mais sa mère en tant qu'objet. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il distingue, autant que faire se peut, déjà le sein, cette sphère, on pourrait dire cette boule, et la mère donc est perçue, est abordée dans un rapport objectal et non pas subjectal. Pendant les 18 premiers mois de sa vie, il va essentiellement, inconsciemment, psychiquement, je ne dis pas physiquement, mais découvrir sa mère, autant que peut le faire son inconscient, c'est-à-dire au travers d'une immaturité pulsionnelle, bien sûr. Alors, il y a des choses qu'il perçoit qui sont tout à fait vraies. L'enfant n'est pas complètement à côté de la plaque au niveau de ses perceptions, mais il va y avoir des schémas qui vont être déformés, notamment par la défense, c'est-à-dire par surmoi interposé. Ensuite, il va découvrir son père, ce, en gros, de 18 à 30 mois. Donc, il constitue ainsi une personnalité avec des choses, donc encore une fois, relativement objectives, vraies, et puis des choses qui le sont moins. Il faut savoir aussi que dès l'instant où l'enfant est déçu, c'est-à-dire que si le parent objet ne répond pas à sa demande, eh bien, ce parent va être envisagé comme mauvais objet. Donc, c'est là essentiellement la mise en place de la culpabilité. L'enfant va avoir une préoccupation, celle de ne pas perdre donc cette notion de plaisir. Cette notion de plaisir, là, de façon très schématique, il peut l'assimiler à l'amour que sa mère, objet, lui porte, ou que son père, objet, lui porte. Donc c'est ce qu'on appelle l'identification, avec toutes les confusions donc qui peuvent s'étayer effectivement, encore une fois, par les schémas défensifs. Donc, un inconscient qui, à l'âge adulte, si il n'a pas mûri comme la logique voudrait qu'il le fasse, eh bien, va rencontrer des écueils, encore une fois, ce qu'on peut assimiler à l'échec. À ce stade, avez-vous des questions à poser ? Ce qui, moi, m'intéresse plus à titre personnel, je préfère qu'on travaille comme ça, encore une fois.